Alors, on va maintenant parler de cet ouvrage et cette réflexion presque de philosophie de la science face au pouvoir. Et on va parler de biopolitique avec Hélène Bannoun. Hélène Bannoun, merci d'être avec nous par téléphone en direct. Bienvenue.
Bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité.
Alors, vous êtes, pour résumer votre parcours très succinctement, pharmacienne biologiste, ancienne chargée de recherche au CNRS. Évidemment,
non,
la question que devraient poser tous les journalistes, c'est est-ce que vous avez des conflits d'intérêts? Mais je pense que vous êtes à la retraite, donc c'est déjà un conflit d'intérêts en moins. En tout cas, est-ce que vous déclarez des conflits d'intérêts par rapport à cette interview?
Alors, d'abord, ce n'est pas le CNRS, c'est l'INSERM. J'ai été,
Pardon.
Il y a très longtemps, chargée de recherche à l'INSERM. Voilà. Évidemment, je n'ai aucun conflit d'intérêts. Je n'ai jamais travaillé pour l'industrie pharmaceutique. Je suis à la retraite, je touche rien de boîte privée et je suis complètement indépendante et bénévole. Tout mon travail est bénévole puisque 70% des droits d'auteur de mon livre sont versés directement à des associations qui défendent les victimes de la crise Covid, des vaccins ou de la maladie. Voilà.
Donc, dans cet ouvrage, vous avez un but à la fois de réflexion de fond sur la biopolitique, et on va beaucoup rester dans cette interview sur ce concept de biopolitique. Votre but, c'est pédagogique, c'est d'avoir du recul, et vous dites, je vous ai entendu dans une interview dire « l'État n'est ni bienveillant ni malveillant ». Au contraire, et ça, c'est vraiment intéressant, cette position, parce qu'elle se démarque à la fois des pro-vax et des anti-vax. On a l'impression, à la lecture de votre ouvrage et de votre réflexion, qu'on passe un cap et qu'on regarde réellement, sous un angle peut-être plus productif, la question. Alors, la biopolitique ou scientisme, est-ce que c'est un peu la même chose, c'est-à-dire l'utilisation de la science par des pouvoirs politiques ou économiques à des fins qui sont non scientifiques?
Alors, il faut différencier hein, le scientisme, c'est donc l'utilisation de la science à des fins politiques. Ça, c'est ce que fait l'État, parce qu'il a besoin de justifier sa politique par un raisonnement scientifique. Et la biopolitique, c'est un concept qui a été introduit par Michel Foucault, donc qui explique que l'État a besoin de normaliser la population, la santé de la population, dans un but économique, c'est-à-dire dans le but que les populations soient capables de travailler, d'extraire les richesses de la terre, puis plus tard de travailler dans les manufactures et les usines, ça c'est à partir du XVIIIe siècle, et de se reproduire aussi, afin de garantir la richesse des États. Donc, dans ce but-là, l'État a cherché, c'est pas ni bienveillant ni malveillant, il a cherché à protéger la santé des populations. Donc, on a vu avec au début les vaccinations, protéger contre les épidémies en amenant l'eau potable, contre le choléra, etc. Mais petit à petit, ça s'est dévoyé, c'est-à-dire que le résultat obtenu maintenant, il est le contraire du but recherché. C'est-à-dire qu'au lieu d'entretenir la santé des populations, de la protéger, eh bien on la dégrade parce qu'il y a des intérêts financiers très importants. Il y a une idéologie vaccinaliste qui s'est renforcée avec le temps et des intérêts financiers très importants des laboratoires pharmaceutiques qui vendent des vaccins sans risquer la moindre responsabilité pénale en cas d'effet indésirable.
Alors vous remontez dans votre ouvrage aussi à des faits historiques qui donnent un éclairage vraiment intéressant. En 86, notamment sur Reagan aux États-Unis, l'industrie qui est gêné par les effets secondaires de vaccins et les procès et ce que ça leur coûte, demande en quelque sorte une immunité sur ce sujet et l'obtient. Et du coup, à partir de 86, en tout cas aux États-Unis, vous nous direz sur la législation en Europe et en France, qu'en est-il? Il est plus, sur le plan financier pur, sur le plan rentabilité, il est plus intéressant de travailler sur des vaccins que sur des médicaments. Quelle est la situation en Europe et aux États-Unis aujourd'hui?
Alors, aux États-Unis, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire du moment qu'un vaccin est inscrit au calendrier des femmes enceintes ou des bébés ou des enfants, alors inscrit au calendrier, ça veut dire recommandé, c'est pas obligatoire, eh bien le fabricant est exempté de toute responsabilité. Alors en France, c'est un peu, en Europe, c'est un peu plus flou, mais en fait, ça revient au même, quoi. La phrase de la législation, elle n'est pas très claire, il y a d'ailleurs des députés européens qui ont posé des questions, c'est pas très clair, mais en fait, ça revient au même, quoi. Voilà, donc,
on est sur la même ligne donc, qui encourage les industries pharmaceutiques à produire du vaccin plutôt que du médicament. Et justement, je voulais vous interroger là-dessus aussi, parce que le vaccin anti-Covid, ARN messager, a priori a été mis au point très rapidement. Donc grâce à cette technologie de l'ARN messager, on peut créer des vaccins plus rapidement. Et puis il a bénéficié aussi parallèlement d'autorisation de mise sur le marché temporaire, donc d'urgence, avec finalement des essais qui ont été raccourcis. Est-ce qu'on est en train de rentrer dans une, à votre avis, dans une nouvelle ère où le vaccin devient une poule aux odeurs économiques et où finalement les gains financiers des actionnaires et des entreprises pharmaceutiques augmentent et la sécurité des patients diminue puisque simplement les protocoles sont réduits dans le temps?
Alors, en effet, on peut penser que la crise de la Covid-19, elle a ouvert la boîte de Pandore, parce que non seulement c'est les futurs vaccins, comme on l'a vu avec ces vaccins Covid, qui vont être soumis à des essais très courts ou même pas d'essais, mais on a vu en France que les médicaments innovants aussi, ils allaient suivre ce parcours. Et on a vu très bien, ça s'est passé déjà depuis septembre 2023, puisqu'on a un anticorps monoclonal qui est injecté aux bébés pour les protéger de la bronchiolite, s'appelle le Beyfortus, et donc c'est pas un vaccin, c'est une immunisation passive. Eh bien, il a bénéficié d'essais raccourcis, puisque les essais ont à peine duré un an, donc on n'a pas les effets de longue durée de ce produit, quoi. Donc
Et en fait, la volonté, je crois que c'est Sanofi, hein, qui a eu la volonté aussi de le rapprocher d'un vaccin pour justement bénéficier de ce processus accéléré. Ça, c'est quelque chose qui vous inquiète si ce même processus dont a bénéficié le vaccin RNM est appliqué à certains médicaments, est-ce que ça vous inquiète pour l'avenir?
Voilà, j'ai peur d'ailleurs, à la fin de mon livre, je préviens, je pose la question, est-ce que ça ne sera pas le sort de tous les médicaments et vaccins de subir des essais très allégés et d'être mis sur le marché très rapidement, pour entre guillemets en faire bénéficier les patients sans essais suffisants? D'ailleurs, j'explique que les ARN messagers, ce sont des produits de thérapie génique. Enfin, ça correspond à la réglementation des produits de thérapie génique, mais ils ont été réglementés par des vaccins. Et justement, ça leur a évité plein de contrôles. Et donc, voilà, ils vont vers la généralisation des ARN messagers en tant que vaccin ou en tant que thérapie contre les cancers ou contre les maladies rares. Donc, ils vont échapper à des essais qui seront indispensables pour les thérapies géniques. On peut supposer qu'ils vont alléger en fait les essais pour tous les médicaments et vaccins. Voilà.
Oui, ça c'est assez inquiétant cette perspective. Alors, je reviens sur le Beyfortus, donc pour la prévention de la bronchiolite du nourrisson, c'est un produit du labo français Sanofi, avec notamment l'hiver 22-23 qui a subi, enfin qui a été vraiment marqué par beaucoup d'hospitalisations, 26 000 pour les bronchiolites de nourrisson, alors pas beaucoup de décès heureusement. Est-ce que justement finalement le manque d'antibiotiques a aussi est un bon signe pour la santé économique du Beyfortus, donc de ce médicament qui est à la fois entre vaccin et médicament.
Alors là, je ne pense pas que ça soit directement le cas pour la bronchiolite, puisque le traitement de la bronchiolite qu'on avait avant, qui était recommandé, c'était des exercices respiratoires pour les bébés. Et puis, comme l'a répété le docteur Maculot dans une interview que j'ai fait avec lui sur le Beyfortus, c'était des aérosols, des nébulisations d'aérosols avec des corticoïdes par voie locale ou même juste de l'eau salée, quoi, de saline. Et tout ça, c'est plus du tout recommandé. C'est pas vraiment interdit, mais on n'en parle plus. En fait, on avait des traitements simples et efficaces. C'est pas tellement les antibiotiques, je pense pas. Les antibiotiques, on doit les donner peut-être chez les bébés qui ont vraiment des surinfections, mais au départ, c'est pas vraiment une surinfection, la bronchiolite. Voilà. Donc, je pense que c'est des traitements très simples et efficaces et pas chers qui ont été mis de côté, justement pour laisser la place à ces traitements innovants tels que le Beyfortus.
Alors, dans un article que vous avez signé, vous abordez aussi les choses dans votre livre, ce concept de l'ADE, donc c'est un effet, enfin si j'ai compris, si bien compris, l'anticorps facilitant, donc un effet qui est contraire à celui recherché, et vous en parlez pour le Beyfortus. Comment ça se traduit pour les patients qui sont touchés par cet effet facilitant?
Alors là, j'insiste beaucoup là-dessus, sur cet effet facilitant des anticorps, enfin aggravant les anticorps au sujet de la Covid, hein, puisque c'était déjà connu pour d'autres maladies virales, de nombreuses maladies virales en fait. En fait, pour la Covid, ça se produit avec les vaccins, puisque les vaccins, au lieu d'empêcher la maladie juste après la vaccination, ils la favorisent. Voilà, maintenant c'est décrit, on le savait déjà avant 2020, et ça a été confirmé malheureusement par la campagne générale. Alors, pour le Beyfortus, C'est aussi un
Est-ce que
antichlore.
ce dont vous parlez, ça peut expliquer un mystère scientifique jusqu'à aujourd'hui, qui était l'apparition de beaucoup de cas après les vagues d'hospitalisation dans certains pays qui n'étaient pas très touchés à l'origine?
Voilà, exactement, exactement. Quand on vaccine en période épidémique, ce qui était le cas avec la Covid, avec un vaccin qui a tendance à faciliter l'infection, bah évidemment, quand le virus circule, les gens ne sont pas spécialement malades, mais dès qu'on leur injecte le vaccin, eh bien, ils fabriquent des anticorps facilitants. Ça a été démontré de manière théorique, de manière pratique aussi. On a trouvé des cas publiés de malades qui ont vraiment eu des Covid graves après le vaccin. Voilà. Et je pense que tout le monde a eu autour de soi des gens qui attrapent la Covid juste après le vaccin.
Ouais, on en a tous eu, effectivement. Est-ce que ça a été un coup de génie, à votre avis, du laboratoire Pfizer, ou c'était de bonne foi d'avoir exclu les 2 premières semaines de tous les retours scientifiques, de tous les comptes rendus scientifiques, et qui a été repris quasiment par toutes les équipes au monde qui ont fait des études sur le vaccin anti-Covid, c'est
Bah
d'exclure
non,
cette.
c'est pas de bonne foi. Ils savaient très bien que, enfin, ils ont remarqué, si vous voulez, dans les essais, que les gens vaccinés attrapaient la Covid juste après. Donc évidemment, ils ont exclu la période juste post-vaccinale pour ne pas que ça se voit. Et même, j'ai montré que dans leurs essais, ils ont manipulé les chiffres en particulier avec les placebos, ceux qui n'avaient pas eu de vaccin, pour effacer cette facilitation, aggravation de la maladie par le vaccin. Donc ils ont, enfin, bon, j'explique dans le livre comment ils ont manipulé les chiffres, ça se voit dans les essais cliniques, quoi. Donc c'est pas du tout de la bonne foi, enfin c'est de la fraude avérée, quoi. Ça, c'est sûr.
Donc là, dans ces cas-là, cette immunité dont on parlait, là, qui a été initiée dans les années 86 aux États-Unis et puis qui existe bien sûr pour le vaccin Covid en Europe, elle pourrait être mise en cause parce que ce que vous décrivez là, c'est une tromperie. Et peut-être ça sort du cadre de non-responsabilité des laboratoires.
Alors, il n'y a pas que ce que je décris là, il y a tout ce qui a été montré sur les fraudes dans les essais par, en particulier Christine Coton, Pierre, on a eu un CSI, Conseil scientifique indépendant, récemment là-dessus. Il y a vraiment des fraudes manifestes dans les essais, avec des documents qui ont été déclassifiés, hein, sur demande de citoyens. Donc, alors ça, c'est à la justice de s'en emparer, parce que normalement, les labos sont indemnisés enfin, exclut toute responsabilité, particulièrement pour les vaccins Covid sous le PrEP Act, c'est-à-dire c'est une loi américaine qui permet d'exclure tous les industriels de toute responsabilité en cas d'attaque par une arme biologique, qui a été définie comme ça par le gouvernement, le ministère de la Défense américain, sauf s'il y a une fraude reconnue. Alors voilà, ça c'est aux juristes d'attaquer. Moi, je ne suis pas juriste, mais là, manifestement, pour nous, d'un point de vue biologique, il y a une fraude. Voilà.
Alors
Et ça,
justement, on va revenir un peu sur le CSI, Conseil scientifique indépendant, tandis que le Conseil scientifique officiel avait tendance à d'abord conseiller le gouvernement, puis à le suivre. Il y a plusieurs faits qui le montrent aujourd'hui avec le recul, et notamment aussi des revirements d'opinion du président du Conseil scientifique. Il s'est créé au fil du temps un Conseil scientifique indépendant. Comment vous le décrivez? Est-ce que c'est simplement face à un fiasco scientifique et à une parole biaisée dans les médias que c'est structuré le Conseil scientifique indépendant cette fois?
alors, le Conseil scientifique indépendant, il a été créé en janvier 2021 par la coordination Santélite, c'est-à-dire les médecins, la coordination des médecins qui ont soigné les malades de la Covid, contrairement aux ordres gouvernementaux, qui ont soigné donc dès mars 2020. Ils ont voulu créer un Conseil scientifique indépendant, justement, pour justifier avec des arguments forts leur comportement, disons, de refuser le refus de soins, de soigner. Ils ont soigné les gens. Et donc, ils ont choisi les membres du conseil scientifique et on a commencé à émettre en avril 2021. Et depuis, on émet tous les jeudis soirs, voilà, en vidéo, en direct, avec des informations indépendantes, exemptes de conflits d'intérêts, pour donner à chacun des informations pour faire des choix justes, des choix personnels, voilà.
J'en reviens aux anticorps facilitants. Dans le cas donc du Befortus dont on parlait lié à la bronchiolite pour la prévention du bronchiolite du nourrisson, vous dites donc dans votre analyse que des enfants touchés par ce phénomène Il y a eu des décès chez des jeunes enfants. Quel est votre sentiment sur la balance bénéfice-risque pour ce médicament, puisque, on le disait tout à l'heure, c'est une maladie qui tue relativement peu?
Alors déjà, le terme de balance bénéfice-risque, déjà, c'est un terme de santé publique au niveau des populations globales. Il faut jamais oublier que chaque individu, il a un colloque singulier avec son médecin. Et c'est là que ça se passe, la balance bénéfice-risque. C'est-à-dire, c'est au niveau de l'individu. Est-ce que tel bébé ou telle maman, elle a intérêt à faire immuniser son bébé? La balance bénéfice-risque, c'est au niveau biopolitique, justement. C'est au niveau de la population. Et c'est un choix politique, ça. Alors que individuellement, c'est le médecin qui fait le choix, voilà. Et donc, on a la Haute Autorité de Santé a elle-même reconnu, mais comme ce qui est connu, que la bronchiolite, elle évolue généralement favorablement, c'est une maladie bénigne, sauf chez certains enfants qui ont des comorbidités à la naissance, cardiaques, pulmonaires, immunodéficiences. Là, il doit y avoir une discussion, en effet, pour savoir s'il faut leur injecter ce produit, est-ce qu'il est vraiment efficace, voilà, on doit décider ça. Mais recommander indistinctement à tous les bébés à la naissance, c'est-à-dire le jour de la sortie de la maternité, une injection d'un produit qui n'a pas encore été testé suffisamment, c'est pas scientifiquement recommandable. Voilà, voilà ce
En
que je veux
fait,
dire.
il y a entre la bronchiolite et la Covid ce lien finalement qui apparaît de réflexion du bénéfice et des risques et notamment de réfléchir à quel public, notamment les publics avec comorbidité, qui eux peuvent avoir vraiment un intérêt à se protéger. Est-ce que ce concept, il existe aussi à votre sens sur la protection, les vaccins par rapport au papillomavirus?
Oui, ben, alors les papillomavirus, je n'ai pas étudié en détail, mais je me réfère aux travaux très importants des docteurs Delépine, hein, Gérard et Nicole Delépine, qui ont vraiment étudié ça.
Qu'on a
Ils ont
reçu dans
montré que,
l'émission également, absolument.
voilà, bon, ils ont montré qu'il n'y a pas le rapport bénéfice-risque au niveau populationnel, donc n'est pas favorable. Et après, au niveau individuel, je pense encore moins, puisque voilà, c'est un cancer qui arrive en période. Enfin, pas plus tard dans la vie que ce qu'on l'injecte, ce qu'on veut l'injecter aux adolescents de 12 ans. C'est trop tôt. Et puis, bon, voilà, ils ont montré suffisamment, mais je pense que vous l'avez développé si vous les avez invités, que dans les pays très vaccinés, bien, justement, l'incidence de ces cancers augmente dans les classes d'âge vaccinés.
Donc
Contrairement à. Voilà.
pour vous, cette grande campagne lancée par le président Macron lui-même sur la vaccination des lycéens et collégiens, il me semble ainsi, au vaccin anti-papillomavirus, ça fait partie vraiment de ce que vous appelez la biopolitique.
Ben oui, voilà, c'est ça, c'est un vaccinalisme généralisé. À la place des soins, on propose des vaccins. Concernant le papillomavirus, il y a un examen très, très simple, ce qui est le frottis vaginal, qui permet des cellules de l'utérus, qui permet de voir, de contrôler qu'il n'y a pas de début de cancer. Quand il y a un début de cancer, ben, il y a une petite opération très simple qui permet de l'arrêter. Et ça, on n'insiste pas dessus, alors qu'on préfère un vaccin à d'autres techniques. Voilà, c'est une espèce d'idéologie qui s'est bétonnée dans le temps avec les profits des entreprises, parce que c'est des profits énormes. Je crois que chaque dose de vaccin, je crois que c'est deux doses, ça doit valoir dans les 130 euros. Donc sur toute une population chaque année d'adolescents de 12 ans qui arrivent à l'âge qui correspond à la vaccination, ça fait beaucoup d'argent, quoi, voilà.
Alors, vous avez votre ouvrage que je recommande, hein, qui, à mon sens, vous me direz votre sentiment, n'a pas eu réellement de retentissement dans les médias dominants en tous les cas. Vous avez envoyé votre livre au Premier ministre Attal et puis à la ministre de la Santé et du Travail, Vautrin. Et ce rassemblement des deux ministères, vous dites que ça fait partie de la biopolitique. Le fait même d'avoir mis travail et santé rejoint le concept que vous avez développé de biopolitique où finalement, les populations doivent être productives. Donc, le lien est tout fait du travail et de la santé.
Voilà, ils ont créé le ministère du Travail et de la Santé. Donc la santé des populations, elle est bien soumise au fait que ce sont des populations travailleuses. Le concept, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, biopolitique, c'est Michel Foucault, hein, donc un philosophe français qui a développé ça dans les années 70-80 du siècle dernier. Voilà. Donc en fait, ils ont fait un geste biopolitique, mais je pense sans le savoir. C'est pour ça que avec mon éditeur, on s'est dit, tiens, on va leur envoyer le livre. Bon, je sais qu'ils ne le liront pas. Non, alors,
Comme un clin d'œil, en tout cas, vous n'avez pas eu de retour à ce jour.
Non, non. Bon, alors, mon livre, si vous voulez, il est évidemment, il n'a aucune publicité, donc, mais il se vend tranquillement. J'espère que, voilà, il y a des gens qui vont le lire et puis le comprendre. Bah, j'ai quand même quelques retours de gens qui ensemble comprennent ce que je veux dire, quoi. Voilà, donc, ça, il fait son petit chemin tranquillement. Voilà.
Voilà, c'est un livre qui se démarque aussi parce que les propos, qu'on soit d'accord avec vous ou pas, ont du recul et il y a une réflexion philosophique. Et ça, il y a beaucoup de livres qui ont dénoncé des excès, des mensonges, mais il y a assez peu, je pense que vous êtes l'une des seules à avoir fait un ouvrage qui réellement essaye de comprendre et de se placer en tant qu'observateur et de comprendre à travers ce filtre, ce concept de la biopolitique. Est-ce que, par exemple, la création, début 2024, l'annonce de la création d'un virus 100% mortel par une équipe chinoise, ça fait partie de ces mêmes concepts qu'on répète de biopolitique, c'est-à-dire on cherche à créer un virus mortel ou une bactérie mortelle, et pour ensuite trouver une parade. Est-ce qu'on n'est pas dans une sorte de concept complètement absurde qui se retourne finalement contre l'espèce humaine?
Voilà, donc j'explique bien deux choses contre quoi il faut se prémunir dans mon livre, c'est-à-dire les gains de fonction, c'est-à-dire ces manipulations de virus qui sont censés prévenir, anticiper des futures pandémies, mais en fait qui les provoquent, puisqu'ils fabriquent des... C'est un peu des docteurs Folamour, c'est scientifique, ils fabriquent des virus tellement efficaces que ces virus finissent par se sortir des laboratoires, enfin s'échapper et infecter la population.
Est-ce que c'est le cas du virus Covid à ce stade, où en est la discussion scientifique? Quel est votre sentiment?
Alors je finis, mais en même temps de cette recherche de virus émergents, futurs, il y a toujours la recherche associée des vaccins, c'est toujours associé. Donc tout ça, c'est vraiment biopolitique. C'est vraiment associé. Alors, évidemment, là, je viens de publier sur ma page ResearchGate la mise au point, la mise à jour de mon article de 2022 sur l'origine du virus. Mm-hmm. Il y a évidemment encore plus d'arguments qui vont vers une origine artificielle et absolument aucun, mais zéro argument qui irait vers une origine naturelle. Donc
le temps a tendance à dégager l'hypothèse du gain de fonction et d'un virus créé qui s'est échappé de laboratoire.
Alors, pour le ça, Covid. C'est même officiel aux États-Unis. Hein. Seulement maintenant, la version officielle, c'est la faute des Chinois. Alors que tout le monde sait que les Chinois étaient salariés d'une entreprise américaine, qui était elle-même financée par le gouvernement américain. Donc les Chinois, ils ont juste fait ce qu'on leur a dit de faire. Et il n'est pas certain du tout que le virus se soit échappé de Wuhan, mais il a très bien pu s'échapper des États-Unis. Mais ça, c'est vraiment le tabou suprême. Ça. Alors j'en parle dans mon article, mais ça ne sera pas beaucoup relayé parce que ça, il ne faut pas trop le dire. Voilà.
Voilà, c'est quelque chose, c'est plus de l'ordre d'une hypothèse. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Bien sûr, votre réflexion sur la biopolitique ouvre aussi à ce qui pourrait être dans l'avenir dans d'autres domaines, comme sur le climatique ou sur d'autres domaines, une réflexion beaucoup plus vaste. La science face au pouvoir, ce que révèle la crise Covid-19 sur la biopolitique du 21e siècle, ou on pourrait dire ce que nous a enseigné la crise Covid sur la philosophie des sciences et de la gestion de la science par les politiques et les pouvoirs économiques. C'est un ouvrage en partenariat avec Bon Sens chez l'éditeur Talma. Merci Hélène Banoun d'avoir été avec nous, et puis on encourage les auditeurs à se plonger dans ce livre qui donne là vraiment un recul et une compréhension de ce que nous avons vécu pendant ces années Covid.
Merci beaucoup de m'avoir lu et de m'avoir compris, ce qui est rare. Merci beaucoup.
À bientôt, Hélène Banoun. Au revoir.
À bientôt. Au revoir.
Partout en Lorraine, sur 89.2. 89.2.